Accent d'Europe, Catherine Roland.
Remainers, they want open borders to support the new world order. But that's just bad luck, because we chose to stand up and they didn't really like our vote.
Bonjour à tous. Depuis le début de la semaine, les votes s'enchaînent à la Chambre des communes. Les parlementaires britanniques n'en finissent pas de rejeter l'accord de Brexit mis sur la table par Theresa May. Une première ministre sans voix mais acharnée qui propose désormais un troisième vote sur le deal avec Bruxelles d'ici le 20 mars. Et dans ce brouillard, les habitants de Boston, au nord de l'Angleterre, sont perdus. En 2016, ils avaient été plus de 75% à voter en faveur du Brexit. Un record dans cette région du Lincolnshire. La raison toujours la même, hein, l'immigration. Un habitant sur cinq est né à l'étranger. Et l'arrivée des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne a changé la physionomie de la ville. Pour le pire, selon les habitants, comme ceux qu'a rencontré Marie Billon dans le Café de Paris, tenu, ce n'est pas le moindre des paradoxes, par un Marocain d'origine et brexiteur.
Bonjour madame, bienvenue au Café de Paris, comment ça va bien? Tout va bien?
C'est une de ses habituées, Judith Canton, accueille si chaleureusement. Mais quelques secondes plus tard, il lui joue un mauvais tour.
Oh non, 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 non. Darling, I'm going to get my eyes tested. Don't worry.
Maintenant, j'ai mis mon béret, comme ça, elle n'a pas aimé le béret. Elle m'a demandé de mettre un peu des oignons, mais je rigole. Mais le béret, c'est un petit morceau de mon business. Hein. Café de Paris, c'est les Brexiteurs et les Remainers. On parle, on discute.
Anton est un grand partisan de la sortie de l'Union Européenne. C'est le paradoxe. Il est le résultat de la mondialisation. Il est né au Maroc, a grandi en France, avant de vivre dans plusieurs pays scandinaves, et puis d'arriver au Royaume-Uni en 1995, et ensuite d'acquérir la nationalité britannique. Et pourtant, il a voté Leave en 2016.
Je suis un immigrant, j'ai vécu ici, comme j'ai dit, ça fait presque 24 ans. J'ai adopté les valeurs anglaises. J'ai le droit de protéger le futur de mes enfants. En Angleterre, j'ai travaillé 2 heures à 14 heures par jour. J'ai payé mes impôts. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Si je ne travaille pas, je te prends avec moi, on va marcher un petit peu. Tu vas écouter seulement les gens qui parlent seulement en polonais. J'ai connu des gens de la Portugal qui ont vécu ici à Boston 25 ans. Ils ne parlent pas l'anglais. Ce n'est pas une intégration, ça. I'll be with you, Chris, in a minute, yeah?
Les habitants de Boston ont voté Brexit à plus de 75% en majeure partie contre l'immigration massive. Il faut dire que la région a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler dans les nombreuses usines locales ou dans les fermes. Beaucoup sont arrivés après l'adhésion des pays de l'Est à l'Union européenne et les autorités locales ont eu du mal à gérer ce flux avec des fonds limités. Anton n'est pas le seul immigré à proférer des propos anti-immigrés. De nationalité roumaine, Christian est un habitué du Café de Paris. Il travaille pour une entreprise de recrutement où il aide les Européens de l'Est à trouver du travail dans la région.
Si j'avais pu voter, je crois vraiment que j'aurais voté pour le Brexit. Il y a ce sentiment de trop, c'est trop. Il y a trop d'immigration, beaucoup trop. Il y a tous ces gens qui viendraient dans le pays uniquement pour bénéficier des allocations sans travailler. Je comprends bien ça.
Christian compte bientôt demander la nationalité britannique. Et son collègue, Alexander, est du même avis que lui. Il est bulgare, arrivé en Angleterre il y a quelques années.
Il y a tellement de gens qui arrivent que même nous, les travailleurs qualifiés, on n'arrive plus à trouver du travail dans notre branche. Et puis ils sont prêts à travailler pour beaucoup moins que nous. C'était vraiment mieux avant, que la Bulgarie n'adhère à l'UE. Il fallait obtenir un visa pour venir ici. Il fallait qu'on passe un test d'anglais et qu'on parle la langue.
Il est vrai que le niveau de salaire à Boston est plus bas que la moyenne nationale. Ici, un travailleur à temps plein gagne en moyenne 100 livres de moins que dans le reste du pays. Ici, Alexander a subi quelques attaques verbales, des remarques à tendance raciste. Et il n'oublie pas qu'il est un immigré et que ça a aussi ses bons côtés.
Moi, je suis content de toute façon, même si je dois quitter le pays. Mais je crois que la situation va se normaliser. Avec un peu de chance, quand il y aura moins d'immigrés, les loyers vont baisser et les salaires augmenter, il y aura plus d'emplois pour les travailleurs qualifiés. C'est excitant tout ça. Je suis pressé de savoir ce qui va se passer.
Alexander est plus optimiste que Judith, qui s'est remise de ses émotions provoquées par le béret d'Anton. Assise à sa table, devant un café au lait, elle espère bien que le Brexit aura lieu.
Je veux un Brexit dur, sans accord. Oui, ça va être difficile pendant quelques années. Les gens ne pourront pas manger un steak tous les soirs. On ne pourra plus gaspiller l'argent. Il faudra faire attention à chaque cent. Mais il y a plusieurs années, on a eu des taux d'intérêt à 15%. Je n'ai jamais raté un remboursement de prêt immobilier. On ne mangeait pas très bien, mais on a survécu. On peut survivre à tout si on a la détermination.
Mais Judith nuance tout de suite ses affirmations par une vive critique de ses concitoyens britanniques.
Ce sera dur parce que ça fait des années que nos fonctionnaires n'ont pas fait un travail digne de ce nom. Et dès qu'il y a un problème, le gouvernement dit que c'est la faute de l'Union européenne, que ce soit vrai ou pas. L'Angleterre est un petit pays. Oui, on a eu un empire, mais c'était il y a 150 ans. On est minuscule. Tout ce qui faisait notre identité, on l'a perdu. Notre mode de vie a tellement changé. Parfois à cause de régulations européennes, parfois parce que le gouvernement a changé des choses en pensant que ça ferait plaisir à l'Union européenne. On n'a plus de colonne vertébrale.
Ça, c'est mon fils Suleiman.
Bonjour, ça va ?
Et voilà qu'arrive le fils d'Anton. Suleiman a 20 ans, il était trop jeune pour voter en 2016. Il étudie aujourd'hui le droit international.
Moi, je n'aime pas le Brexit, c'est grave. Pour moi, je suis jeune, je suis un étudiant, alors il y a beaucoup d'opportunités qui n'existent pas après Brexit pour moi. Parce qu'il y a Erasmus qui est avec l'European Union.
Où voudriez-vous aller en Erasmus ?
Moi, Belgique, c'est mon premier choix.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a l'European Union Bruxelles.
Ma famille m'a trahi.
Anton porte la main au cœur comme si son fils venait de le poignarder, mais il garde un grand sourire aux lèvres.
On appelle la démocratie à ma maison. Au revoir et à la prochaine, hein. Bye bye.
Pas de tension à la maison, donc d'autant plus que son épouse, d'origine polonaise, qui avait elle aussi voté Brexit en 2016, a changé d'avis depuis les débats houleux et les divisions des hommes politiques.
Pushing to leave, still failing to lead, still not admitting defeat, still dodging questions like their fields of wheat, sure. Still got love for our leave in DUP, right. Still taking the blame, still losing your game, still somewhere between leave and remain.
Et les conséquences de cette cacophonie britannique avec la perspective d'un Brexit no deal le 29 mars suscite une grande nervosité de l'autre côté de la Manche notamment, et chez les douaniers français en particulier. Pour bien marquer les esprits, ils ont entamé il y a plus de 10 jours une grève du zèle qui a entraîné plusieurs kilomètres de bouchons sur l'autoroute A16 avant le tunnel sous la Manche, l'annulation de plusieurs Eurostar, sans compter les retards. À la gare du Nord de Paris, le reportage de Frédéric Lebel auprès des voyageurs et des douaniers.
Au premier étage, la file des passagers qui veulent embarquer pour le prochain Eurostar s'allonge. Mariette a pris les devants. Elle est venue avec plusieurs heures d'avance.
J'ai reçu un texto hier, bilingue, long comme ça, me disant que, à cause de possibles mouvements de grève des douaniers français, le train ne respecterait pas les horaires, si j'ai bien compris. Donc je suis à l'heure, je pense, pour prendre l'Eurostar précédent.
Grève du zèle, les douaniers français ont bien compris qu'un rien pouvait gripper une machine bien peu préparée. Yann Kerhervé du syndicat CGT Douane.
Jusqu'à maintenant, on nous dit tout va bien se passer, mais nous on constate que les bornes de détaxe, elles sont toujours pas installées. Les aubettes pour faire la taxation des marchandises ne sont toujours pas installées. Ça, c'est vraiment des missions spécifiquement douanières. Et donc, on a des grosses inquiétudes. On est quand même à 20 jours du Brexit et les formations sont en cours, mais elles sont insuffisantes, autant en termes de contenu qu'en termes de quantité. Tout ça, ça ne s'improvise pas et on est vraiment dans une grande improvisation.
Avec la fin du marché unique pour tous les produits qui rentrent et qui sortent du Royaume-Uni, il y aura donc taxes et détaxes, mais il y aura aussi un risque accru de fraude à la frontière.
Ah, mais il y a toujours énormément de fraude, hein. Donc ça peut être des enjeux financiers, des gens qui se déplacent avec des sommes d'argent très importantes. Il y a des obligations déclaratives qui, bien souvent, donc, ne sont pas faites. Il y a tout ce qui concerne les stupéfiants, les cigarettes, les alcools. C'est multiple et varié, la fraude.
Et pour toutes ces nouvelles attributions, le nombre de recrutements n'est pas au rendez-vous. Trop peu, trop tard, estime le syndicaliste.
Quand je suis rentré en douane, il y a une vingtaine d'années, on était 22 000 douaniers. À l'heure actuelle, on est 17 000 douaniers. Pour le Brexit, donc, y a 700 douaniers qui sont recrutés. En fait, c'est pas 700 douaniers, c'est 600, parce qu'au titre de l'effort national qu'on demande à chaque administration, on doit rendre sans emploi. Donc c'est pour nous totalement insuffisant.
Des douaniers encore en formation le 29 mars, c'est dire s'il y a un manque d'anticipation. Quant à ces nouveaux agents Brexit, ils seront surtout jeunes et sans expérience. Actuellement, un excès de zèle des douaniers retarde chaque examen de valise de 3 secondes. C'est assez pour rompre la fluidité de la circulation. L'Agence européenne du tourisme, ETOA, a calculé que si ce zèle s'étendait à la police de l'air et des frontières, désormais habilitée à contrôler les passeports, mais aussi à questionner très classiquement les passagers britanniques sur l'objet de leur voyage et comment ils comptent le financer, un petit délai de 90 secondes à peine par passager, multiplié par les 900 passagers de l'Eurostar, aboutirait à 22 heures de retard, autant dire un trafic bloqué. Retard monstre aussi, selon un rapport confidentiel du gouvernement britannique, déniché par le Financial Times, des contrôles plus longs pourraient aboutir à l'annulation de la moitié des trains Eurostar à Saint-Pancras. On n'en est pas encore là, mais pour Thierry, un jeune informaticien français qui regarde toujours les opportunités de travail en Angleterre, rien ne sera plus comme avant.
Plus compliqué, certainement, à cause de problématiques, je pense, de visa, de toute façon, pour beaucoup de gens. Après, est-ce qu'il y aura des gens qui auront envie d'y aller beaucoup moins. C'est moins attrayant pour les gens de se retrouver à Londres ou... Au final, les conditions ne sont plus réunies. C'est une ville qui est déjà de base chère, qui a attiré des Français parce qu'elle offrait un autre cadre de vie. Aujourd'hui, elle a une monnaie qui est un peu dévaluée. Le pays a fait un choix de s'éloigner de l'Europe, donc ça a ses conséquences.
Va-t-il pour autant renoncer à des week-ends à Londres avec sa petite amie ? Sûrement pas. C'est avec une dose certaine de fatalisme européen qu'il prend cette révolution politique et frontalière.
C'est dommage, après c'est pas le seul pays qui a vu la montée du populisme de son côté, donc ils y ont cédé, tout comme l'Autriche y a cédé, tout comme l'Italie aujourd'hui cède également ça, l'Europe souffre très clairement, donc il y a structurellement un modèle qui est remis en cause.
La fin du rêve européen, une réalité très concrète pour les 11 millions de passagers qui chaque année voyagent en Eurostar.
Volám sa Zuzana Čaputová a toto som ja, keď som mala 3 roky. Narodila som sa v Pezinku, v krásnom malom meste uprostred Karpát, do rodiny, ktorá ma milovala a podporovala.
Les Slovaques votent samedi au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un scrutin test pour le parti populiste au pouvoir. Un an après la crise politique déclenchée par l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et les manifestations anti-gouvernement, encore inconnue du grand public il y a peu, une candidate a émergé, on l'entend d'ailleurs, elle a 45 ans, elle est avocate et elle défend notamment les minorités. Zuzana Čaputová est désormais favorite de ce premier tour. Alexis Rosenzweig.
45 ans seulement, femme, divorcée mais en couple, le profil de Zuzana Čaputová est atypique dans ce pays plutôt conservateur qu'est la Slovaquie, où l'influence de l'Église catholique est loin d'être négligeable. Mais les temps changent, et elle n'a pas hésité pendant la campagne à évoquer des thèmes qu'aucun candidat, même libéral, ne s'autorisait réellement jusqu'ici, comme par exemple la possibilité d'adopter pour les couples homosexuels. Tolérance envers les minorités sexuelles, bienveillance aussi envers les minorités ethniques. La candidate a proposé une traduction simultanée en hongrois lors de ses déplacements dans les régions magyarophones du pays. Zuzana Čaputová semble aussi profiter de l'élan suscité dans la société slovaque par le choc de l'assassinat de Jan Kuciak, qui enquêtait sur les liens entre politique et mafia. Sa campagne électorale, avec une tournée de petites salles dans tout le pays, a été efficace. L'attrait de la nouveauté, sa prestance et son ton mesuré ont aussi payé dans les débats télévisés en comparaison avec l'attitude d'autres candidats, dont un néo-fasciste et un commissaire européen, membre du parti actuellement au pouvoir.
Le mal qui ronge ce pays, c'est d'abord selon moi la corruption et l'abus de pouvoir, avec des affaires qui ne font pas l'objet d'enquêtes ni de procès. Cela accentue la frustration d'une partie de la population qui se tourne vers les extrêmes, fatiguée aussi par les mensonges proférés par certains de nos responsables politiques. C'est ce qu'il faut changer.
Même si les pouvoirs présidentiels sont limités en Slovaquie, Zuzana Čaputová espère faire bouger les lignes, représentante de la Slovaquie progressive, une nouvelle formation sur la scène politique nationale. Elle a bénéficié du désistement d'un autre candidat, également prisé par un électorat plutôt jeune, urbain et mobilisé depuis le meurtre du journaliste et de sa compagne. Mais les politologues préviennent qu'elle va devoir se blinder, surtout dans la perspective d'un deuxième tour le 30 mars, car elle est déjà la cible d'attaques de type conspirationniste sur Internet, notamment sur ses liens supposés avec George Soros.
Le tribunal.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Une nouvelle réforme de la justice vient d'être adoptée en France. Elle vise à la rendre plus lisible, plus accessible et surtout plus efficace alors que les tribunaux sont débordés. Depuis plusieurs années, ce secteur focalise l'attention des gouvernements. Avec l'avènement d'Emmanuel Macron, le budget de la justice augmente désormais de 4% par an contre 2,5% en moyenne au cours du précédent quinquennat. Mais est-ce assez ? Le dernier rapport du Conseil de l'Europe sur les systèmes judiciaires des 27 permet de se faire une idée de ce qui progresse en France et de mesurer ce qui la sépare encore de ses voisins. Daniel Vigneron l'a lu pour nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, la France passe pour un pays qui ne consacre pas assez de moyens à sa justice. Est-ce toujours le cas ?
Si on met de côté ce qui concerne la gestion du système pénitentiaire et le fonctionnement du ministère pour se focaliser uniquement sur les budgets finançant le système judiciaire, la France n'y consacrait en 2016 que le quatrième budget européen, le budget allemand représentant à cet égard plus du double du budget français. Si l'on raisonne en budget du système judiciaire par habitant, l'Hexagone avec moins de 66 euros est devancé par tous les pays d'Europe occidentale, à l'exception du Portugal, de l'Irlande et de la Grèce. L'Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas y consacrent environ 120 euros par habitant, l'Italie ou l'Espagne entre 75 et 80 euros. En clair, les efforts en faveur de la justice ont surtout porté en France sur les moyens du ministère ou sur les prisons.
Y a-t-il un domaine où la France est vraiment en retard ?
À la lecture du rapport du Conseil de l'Europe, on constate que notre pays se montre assez médiocre en matière d'accès à la justice pour tous. Celle-ci se mesure à l'importance de l'aide judiciaire accordée à ceux dont les ressources sont insuffisantes pour acquitter les frais de justice ou rémunérer un avocat. De façon surprenante, pour un pays à forte propension redistributive, la France ne se classe que 11e sur 14 parmi les pays d'Europe de l'Ouest en allouant seulement 5 euros d'aide judiciaire par habitant. L'Allemagne et la Belgique y consacrent 7 à 8 euros et les Pays-Bas 27, la Grande-Bretagne 30 et la Suède 36 euros. En outre, ce budget par habitant a décliné de 11% en France entre 2014 et 2016.
Et quelle est la situation en matière du nombre de juges ?
En ce qui concerne ces magistrats du siège, ceux qui exercent à temps plein, sont un peu plus de 10 pour 100 000 habitants en France. C'est peu comparé à une moyenne européenne de 22. Si ce n'est pas très éloigné des effectifs de juges chez plusieurs de nos voisins, comme l'Italie, l'Espagne ou la Belgique, la différence est énorme comparée à l'Allemagne, particulièrement bien pourvue, avec 24 juges pour 100 000 habitants.
Toutes ces données, Daniel, ont bien sûr un impact sur l'encombrement des tribunaux.
En matière civile et commerciale, du fait d'un personnel contraint et du grand nombre d'affaires en cours, la France présente une durée élevée en termes de résolution des affaires, une durée jugée inquiétante par le Conseil de l'Europe. Au civil et en première instance, 353 jours en moyenne en 2016, contre 318 en Espagne, 196 en Allemagne et 121 aux Pays-Bas. Et de surcroît, la situation se dégrade sérieusement en France. On n'était qu'à 279 jours en 2010. Dans les affaires pénales, ce n'est guère mieux pour la France qui, en deuxième instance, exige 286 jours pour être traitée contre une moyenne de 143 jours dans les 45 pays du Conseil de l'Europe et 107 en Suède et même 56 jours seulement en Espagne. En conclusion, l'effort consenti en faveur de la justice française depuis ces dernières années reste très insuffisant. Il doit être accentué et sans doute s'axer davantage sur le recrutement, notamment de procureurs, ainsi que sur le développement des procédures de conciliation ou de médiation.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur Facebook. Moi, je vous retrouve demain.